Que le Seigneur soit béni pour ces moments. Juste une petite annonce avant de commencer. Si vous étiez là il y a une vingtaine de minutes, j'ai demandé à ceux qui étaient là d'utiliser le psaume 32 pour support, pour que vous demandiez à Dieu de prier. Vous le lirez si cela vous convient et vous demanderez à Dieu qu'il dirige l'Église. Je ferai un culte prochainement par rapport à ce psaume et je pense que beaucoup de chrétiens ont besoin de cet enseignement que j'apporterai dans le psaume 32. Nous allons faire une lecture quand la sono sera bien réglée. Matthieu 28, verset 19. Nous revenons sur ce que nous avons entamé la dernière fois. Nous allons poursuivre un peu plus loin ce soir, bien entendu. Matthieu chapitre 28, voilà le mot d'ordre de Jésus aux apôtres pour l'Église. Beaucoup de gens, je suis sûr, vont dans les églises et peut-être certains ne savent même pas pourquoi ils y vont. Pourquoi Dieu a voulu l'Église ? Pourquoi Dieu a voulu l'Église ? Est-ce que Dieu aurait pu faire en sorte que nous nous convertissions tout seuls à la maison avec la lecture de la Bible et que nous ayons une vie chrétienne, individuelle à la maison ? Oui, Dieu aurait pu permettre que chacun se convertisse chez soi, point, on devient chrétien, un témoin même, et tout se ferait dans le cadre d'une vie personnelle individuelle. Mais non, Dieu a créé l'Église. Et j'aimerais que petit à petit, nous comprenions bien quelle est la raison d'être de l'Église et notre présence dans l'Église et combien c'est important que nous ayons une Église vivante où chacun puisse trouver sa place et être amené à entrer dans le dessein de Dieu. Mais pour cela, il faut que nous soyons des disciples. Beaucoup de confusion, de maladresse, de religiosité et de scandale sont le résultat de ce que les gens ont été à l'Église, mais ne sont pas devenus des disciples. Regardez bien le mot d'ordre du Seigneur. Donc avant de remonter au ciel, Matthieu 28, verset 19, voilà ce qu'il dit donc aux 12. Les 12 disciples étaient là. Voilà ce qu'il dit, Matthieu 28, 19, « Allez, faites de toutes les nations des disciples. » Les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Voilà donc le mot d'ordre du Seigneur. Faites des disciples. Un disciple, qu'est-ce que c'est un disciple ? Vous mettrez quoi, vous, sur un papier ? Si on vous disait, vous avez toute une page, comme à la faculté ou à la fin, et vous mettez, voilà. Qu'est-ce que c'est un disciple ? Vous pourriez là dire un mot ? Qu'est-ce que c'est un chrétien ? Un disciple, c'est un chrétien ? Un chrétien, c'est un disciple ? Qu'est-ce que vous mettriez sur le mot disciple ? Voilà, ça c'est très bien. C'est bien, monsieur Piette. Quelqu'un qui suit son maître. Voilà, tout disciple accompli sera comme son maître. Parce qu'un disciple, vous savez, regardez, je vais vous donner juste deux mots. Le Seigneur a dit, vous êtes mes témoins. Vous rappelez ce texte, vous êtes mes témoins. Et pourtant, combien, à la place d'être des témoins, nous avons essayé d'être des convertisseurs ? C'est vrai ou c'est pas vrai? Jésus n'a pas dit, vous êtes des convertisseurs. Et regardez le nombre de fois où par notre témoignage, par nos propos, notre comportement, nous avons essayé de convertir des gens. Et quel est l'effet que ça a fait? Ça a fait souvent l'effet inverse. Jésus n'a jamais dit, vous êtes des convertisseurs. Jésus a dit, vous serez mes témoins. Donc, ma vie, alors là, bien sûr, il faut que ça soit en adéquation. Il faut que ce que je vive soit vraiment le résultat de cette communion avec Dieu. Et si ça ne l'est pas, je dois justement m'en excuser. Si j'ai été désagréable avec quelqu'un avec qui je travaille tout en étant chrétien, je dis, tu sais, j'en ai honte, je suis chrétien, je m'en veux de m'être comporté de cette façon avec toi. Voilà, c'est ça, être un témoin, c'est être irréprochable, c'est ça, c'est j'assume mes échecs en demandant pardon. Alors ce soir, on va lire un texte pour comprendre ce qu'est le disciple, parce que Jésus a parlé à plusieurs reprises de ce qu'est un disciple. Donc on va voir si nous sommes des disciples. Vous le savez si vous êtes des disciples ? Alors, au fait, vous êtes des disciples ? Nous sommes des disciples ou des chrétiens de nom ? Bon, on y va ? Allez, on y va. Jean chapitre 15. Eh bien, si quelqu'un était interpellé ce soir, eh bien, c'est bien. Moi, je crois que c'est bien quand le Seigneur nous interpelle, qu'il nous montre quelque chose qui ne va pas. Parce que je pense que, comme on l'a chanté, que cet instant qui passe serve à nous rapprocher de toi. Seigneur, si tu me montres quelque chose qui ne va pas, eh bien, je vais le corriger. Est-ce que vous êtes dans cet état d'esprit ? Eh bien oui, mais si vous êtes dans cet état d'esprit, croyez-moi, c'est bien. Alors, Jean chapitre 15, un texte où justement Jésus explique ce qu'est un disciple. On va le lire jusqu'au verset 17, car il y a tout un ensemble. Et vous remarquerez qu'à 13 reprises, alors souvent les versions, il y a plus ou moins, mais il y a 13 ou 15 fois le verbe « demeurer » pour que Jésus comprenne que nous devons rester continuellement attachés à lui. Jean chapitre 15, verset 1er. « Je suis le vrai cep, et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est à moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. » Déjà vous êtes purs, à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis on le ramasse, on le jette au feu, et il brûle. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié, et que vous serez mes disciples. C'était le verset qui nous intéressait le plus, mais il fallait tenir compte du contexte. Je le relis, verset 8. « Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses. » Afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je lisais dans la version Osterwald ce matin, parce que moi ça ne me convenait pas trop ce verset, vous êtes mes amis. Et il est dit dans la version Osterwald, vous serez mes amis. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Mais on n'est pas amis parce qu'on est à l'église. Vous serez mes amis. Vous savez, et je vous conseille de lire la version Osterwald. Ce matin, j'ai lu pendant plus d'une heure dans la version Osterwald. Et je vous assure que c'est beaucoup plus profond. Vous allez me dire, mais ça ne change rien. Vous êtes mes amis, vous serez mes amis. Et bien moi, je peux vous dire que je fais vraiment la différence. Vous la faites la différence ? Vous serez mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur. Parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que tout ce que vous demanderez au père à mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Amen. Voilà, je pense qu'il y a de quoi méditer. Non ? Quel chapitre ? Quel chapitre, mes frères et sœurs, quel chapitre. Cet été, je l'ai lu peut-être 50 fois ce chapitre. Je l'avais lu peut-être 200 ou 300 fois, c'est sûr, en 35 ans, certainement même plus. Et j'ai été interpellé par le verset 11. Je me suis dit, mais que tu as été bête de ne pas comprendre le cœur de ce texte. Pourquoi tu ne t'es pas consacré davantage à Dieu? Alors que ce texte nous dit que si nous demeurons dans ces choses, nous aurons une joie parfaite. Je suppose que même si on sert Dieu pour devenir des disciples, personne n'est désintéressé par le fait d'avoir une profonde joie. Oui ou non ? Est-ce que vous vous rendez compte ? Si Jésus dit que si nous demeurons en lui, et demeurer, je le répète, ça veut dire rester continuellement attaché à Dieu. Si nous demeurons en lui, il nous donnera une joie parfaite. Est-ce que quelqu'un est intéressé par une joie parfaite ? Vous croyez que Jésus l'a dit ? Et c'est vrai. Alors, nous en sommes où nous en sommes. Nous avons tous des progrès à faire. Dieu sait où vous en êtes. Et il agira, il nous disciplinera. De telle sorte que nous apprenions certaines choses. Dieu agit par une prédication comme celle-ci. Dieu agit par la prédication. Mais parfois, il ne peut pas agir par la prédication. Parce qu'on écoute, mais on n'obéit pas. Il agit parce qu'on prie. Est-ce que Dieu peut agir par la prière, quand on lui demande? Oui. Est-ce que Dieu devrait agir davantage, d'après vous, par la prédication? Est-ce que vous êtes d'accord que tous les moments que nous avons vécu ensemble ne sont pas forcément approchés de Dieu? On a chanté, Lucas a insisté, il a bien fait, que l'instant qui passe serve à nous approcher de toi. Est-ce que tous les moments que nous avons passés devant Dieu nous ont automatiquement approchés de Dieu? Ben non, hélas. Pourquoi? Eh bien parce qu'on n'était pas disposé, parce qu'il y a plein de raisons. Notre cœur était fermé, notre cœur était ailleurs, les plaisirs de la vie nous ont étouffés, le diable a mis sa couche pour nous éloigner de Dieu, etc., etc. Mais une chose est certaine, ce que le Seigneur Jésus veut, c'est pas que nous soyons des évangéliques qu'on va comparer avec des protestants évangéliques ou des baptistes charismatiques ou des presbytéraux apostoliques. C'est comique. C'est presque comique. Le Seigneur nous pose une question. Est-ce que vous êtes mes disciples? Si vous portez du fruit, vous serez mes disciples. Et un chrétien, il doit porter du fruit et il doit accepter le fait que Dieu va pouvoir émonder. Parce que Dieu ne bénit pas que par les cantiques. Par un cantique, est-ce que Dieu peut nous parler? Quels sont les moyens par lesquels Dieu va nous parler? Eh bien, nous parler par les cantiques, par la prière, par la lecture de la Bible, par des prédications inspirées, et par le moyen le plus utile que Dieu utilise, c'est la discipline. C'est les épreuves, si vous voulez faire plus court. Les épreuves. Est-ce que vous croyez? Alors on peut rejeter une épreuve, et très mal la vivre, et s'éloigner de Dieu, ou on peut accepter une épreuve, accepter d'être émondé, et dit voilà, je dois apprendre quelque chose, je suis en train de traverser cette affaire, il faut que je comprenne que j'ai quelque chose à saisir dans cette épreuve. Mais il faut commencer par le fruit. Le fruit, c'est quoi le fruit? Porter du fruit. Le fruit, c'est le résultat de ce qu'une branche peut porter. Vous avez déjà vu en ces temps-ci, vous avez vu des figues, peut-être que dans votre jardin il y a un poirier, peut-être que dans votre jardin il y a un cep de vigne, et vous avez vu, voilà, ces ceps, ces pieds portent du fruit. Donc le fruit, c'est pourquoi? C'est pour qui le fruit? Oui, mais est-ce que le poirier fait une poire pour lui? Ou est-ce que c'est pour rafraîchir quelqu'un d'autre? Voilà. Donc déjà le fruit, nous devons en déduire que si Dieu veut que nous portions du fruit, c'est pour rafraîchir les autres. C'est pour faire du bien aux autres. Alors on va commencer par le début. Je ne sais pas si on n'aura pas le temps de tout voir, mais une chose est sûre, c'est le fruit. J'ai pris l'image de la branche, mais ce n'est pas la branche en vérité. C'est les racines. C'est les racines qui font que la branche va pouvoir porter du fruit. Ce n'est pas la branche. La branche porte le fruit, mais en vérité, toute la vie vient des racines qui nous rappellent que c'est quelque chose de caché. Et quand Dieu dit par le prophète Osée, c'est de moi que tu recevras ton fruit, n'oublions jamais que c'est dans une communion réelle avec le Seigneur que nous pourrons porter du fruit. Et à partir du moment où un sarment est greffé sur le cep, eh bien, il ne peut que porter du fruit. Et si nous ne portons pas de fruit, si nous sommes stériles, si nous portons du mauvais fruit, eh bien, c'est que nous ne sommes pas greffés. On peut aller à l'église, on peut lire la Bible, on peut être des religieux à mort comme on voudra. Si on ne porte pas de fruit, c'est qu'en vérité, on a mal commencé. Mon père, il a greffé je ne sais pas combien d'arbres dans sa vie, et il y a des greffes qui ne marchent pas. Il y a des greffes qui ne marchent pas. Il faut recommencer. Mais quand une greffe marche, je peux vous dire que ça vaut. Moi, je vois mon père, il a dépêché des arbres. Hein, des arbres. Et il y a trois sortes de pêches différentes. Ça fait qu'il y en a qui mûrissent, il y en a qui sont vertes quand d'autres sont mûres. C'est magnifique à voir. Tellement les greffes sont bien faites, il a éparpillé tout ça. Ça a été fait avec précaution. Et c'est beau de voir ces arbres fruitiers qui ont été greffés avec minutie. Eh bien, nous devons nous poser la question, est-ce que je suis greffé dans la personne de Jésus-Christ? Puisqu'on l'a lu, Dieu est le vigneron, c'est lui qui tient les sécateurs, et le Seigneur Jésus, lui, il est le cep. Et si nous ne portons pas de fruits, c'est parce que peut-être nous avons mal commencé. Nous parlions dernièrement avec ceux qui prennent le baptême de ce verset, quand il est dit dans Matthieu chapitre 3. Il faut commencer peut-être au début. Plusieurs personnes m'ont dit ces temps-ci, suite aux prédications qui ont été données, je me suis rendu compte que je n'étais pas un vrai chrétien. Est-ce que c'est bien? Ah oui, c'est bien. Mais c'est extraordinaire quand quelqu'un dit « mais je réalise que je ne suis pas un vrai chrétien, que je ne suis pas passé par une profonde nouvelle naissance ». Ah ben moi je peux vous assurer que ça a été des cadeaux que l'on m'a donnés, parce que ces chrétiens ont été honnêtes. Pourquoi ? Eh bien parce qu'ils n'ont pas commencé par la repentance. Regardez Matthieu chapitre 3, Matthieu chapitre 3 verset 8, mais on va lire le contexte. C'était lorsque Jean-Baptiste est arrivé, Jean-Baptiste était vraiment quelqu'un, c'était vraiment, vraiment, vraiment un homme de Dieu. Et verset 7, « Voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir ? Produisez donc du fruit digne de la repentance. » Donc, qu'est-ce que Dieu demande en premier ? Lorsque l'on va prendre le baptême, c'est pas prendre le baptême pour prendre le baptême, dimanche après-midi, il y a notre sœur Laura qui prendra le baptême, elle vous expliquera ce qu'elle a traversé et comment elle est passée de la religiosité à la repentance et de la repentance à la conversion et de la conversion à la nouvelle naissance, vous aurez une explication de ce qu'est un véritable disciple. Mais voilà, Jean-Baptiste, avec beaucoup de sévérité, parce que c'était nécessaire, pose la question à ces pharisiens, ces gens religieux, des gens religieux qui venaient se faire baptiser parce que tout le monde se faisait baptiser. Alors bon, ben, vive le baptême, tout le monde se fait baptiser. Il dit, stop. Produisez donc du fruit digne de la repentance. Et la première chose que Dieu attend, c'est que lorsqu'on commence sa marche avec lui, on devienne de vrais disciples. Comment ? En passant par une profonde repentance. Le Seigneur, il n'a pas dit, ah, mais, vous savez quand les Juifs se sont approchés le jour de la Pentecôte, qu'ils ont été touchés par la prédication. Vous vous rappelez, c'était des religieux qui avaient déjà été baptisés. Tenez-vous bien. Présenté à Dieu. Ils avaient certainement même reçu beaucoup de choses. Et ils ont eu le cœur vivement touché. Et ils vont dire à Pierre, mais que ferons-nous ? Et Pierre leur a pas dit, oh, ben écoutez, vous allez tous les dimanches au temple, vous allez à la synagogue, ben écoutez, ben, soyez gentils maintenant. Soyez gentils. Soyez sympas. Non. Le Seigneur ne demande pas d'être gentil. Le Seigneur, il dit, repentez-vous. Et souvent, on demande aux gens d'être gentils. Je me souviens, ma mère, elle était dans une église où, un jour, on avait une discussion. Elle me dit, tu sais, mais ce pasteur dans lequel l'église est, il est gentil. Il dit, maman, gentil, ça ne sert à rien. Ça ne suffit pas d'être gentil. Un pasteur, il ne faut pas qu'il soit gentil. Vous voulez un pasteur gentil ou un pasteur spirituel ? Les deux ? Bon, je le savais. Mais sincèrement, qu'est-ce que vous préférez, un pasteur gentil ou un pasteur spirituel ? Un docteur, vous préférez un docteur gentil ou un docteur compétent dans la médecine ? Bon, ça m'est égal qu'il ne soit pas gentil, hein. Alors, mais ça, au moins qu'il soit compétent. Mais ça, bon, normalement, si quelqu'un est spirituel, il a pas de soi qu'il va être aimable. Mais mes frères et sœurs, le Seigneur n'a pas dit à ces hommes-là qui venaient, qui étaient déjà religieux, qui avaient été baptisés, qui avaient été présentés, qui avaient leur église, etc., soyez sympas. Non ! Produisez du fruit digne de la repentance. Et c'est là que ça commence un vrai chrétien. Un chrétien, il passe par une vraie repentance. Il accepte véritablement la parole de Dieu. Même s'il y a des manquements, même s'il y a des faiblesses, même s'il y a des petits moments de doute, Dieu l'a dit, c'est sérieux. J'ai parlé tout à l'heure de la joie parfaite. Si Jésus dit que celui qui demeure en Christ et qu'en Christ demeure, qui s'applique à ces choses, qui s'y tient à carreau, comme on dit, et si Jésus dit, mais je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit complète, est-ce que vous pensez que Jésus exagère ou est-ce que vous pensez qu'une joie parfaite existe ? Une joie même dans l'épreuve, même une joie même dans les pleurs. Est-ce qu'on peut avoir la joie dans le deuil ? Oui, la joie, bibliquement, c'est pas en sorte, on est hilar. La joie dans la Bible, c'est une satisfaction intérieure. Bien sûr, il faut déjà expliquer les mots. Je pense que dans l'Église, je pense que même dans mes prédications, il faut que j'explique les mots. Au printemps, il y a ma femme, elle m'a fait faire un partage aux ados. Elle m'a dit, tu leur fais un truc sur la rémunération, sur les rétributions, parce qu'ils ont posé plein de questions sur les récompenses. Alors, moi, j'ai préparé ma petite étude sur les récompenses, et toutes les 3 minutes, ma femme, arrête. Gérard, il vient de dire ce mot. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire ? Pas un ado avait compris. Pendant la prédication, elle m'a arrêté au moins 15 fois. Il y avait au moins 15 mots qu'on connaît par cœur et qu'il n'avait pas compris. Et je pense que pour devenir de vrais disciples, c'est peut-être souhaitable que nous comprenions certains mots. Vous voyez, la joie, c'est pas, on est hilar, c'est une satisfaction intérieure. Il n'y a pas besoin de rire pour avoir la joie. C'est une satisfaction. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, produisez des fruits dignes de la repentance. La repentance, ça amène quoi? Ça amène un vrai changement. Si vous n'avez pas changé, c'est que vous ne vous êtes pas repenti. Moi, il y en a qui m'ont dit, mais avec un culot pas possible. Ah, vous savez, moi, depuis que je suis chrétien, bon, j'ai pris le baptême, mais ça n'a rien changé. Je suis comme avant. Ça n'a rien changé du tout? Ah, ben non, moi, je suis exactement comme avant. Mais j'ai dit, comment ça? Ben oui, je n'ai pas changé. Et j'ai dit, mais c'est que vous n'êtes pas converti. Mais si, j'ai pris le baptême. Voyez, ça fait mal au cœur quand même. Ça s'est passé ici. Ne vous inquiétez pas. Ce qui prouve que les gens ne sont pas passés par la repentance. Moi, je crois que quand quelqu'un passe des ténèbres à la lumière, du royaume de Satan au royaume de Dieu, du royaume des ténèbres au royaume de la lumière, moi, je pense qu'il doit y avoir un petit changement. Petit, c'est une façon de parler. Oui ou non? Mais c'est évident. Donc, quand Jésus dit, mais vous êtes vraiment mes disciples, vous serez mes disciples, si vous portez du fruit, vous devez pouvoir dire, non, ce n'est pas parce que j'ai pris le baptême que je suis un disciple, j'ai pris le baptême parce que j'ai décidé de m'engager avec Dieu et de le suivre. Ce n'est pas toujours facile, mais ça vaut la peine. Tout à l'heure, je racontais un frère, là, je me rappelle quand je travaillais pour l'EDF, vous savez, à la fin des chantiers, il y avait un contrôle du travail qui avait été fait. Et il y avait le chef d'équipe, il me disait, bon, attention Gérard, si le gars de l'EDF il vient, tu dis qu'on a fait ça. Ah, j'ai dit, moi je dirais la vérité. Parce que des fois, vous savez, on travaille dans le granit, et à la fin, c'était pas facile, il fallait... Alors, on acarissait un peu les poteaux, et on gagnait une demi-journée. Alors que le poteau, il fallait qu'il soit bien ancré dans le... Enfin, c'était technique. Et moi, j'ai dit, ah, moi, s'il me le demande, je dirais la vérité. Alors, quand l'EDF arrivait, il me disait, bon Gérard, tu vas au bout du chantier. Tu vas chercher une pelle, c'était des fois 2 kilomètres, j'y vais comment? Mais tu vas à pied. Eh bien, j'y allais avec joie et de bon cœur, mais j'avais décidé de ne pas mentir. Et quand je suis parti, tous les gars sur le chantier, tous m'ont dit, et j'étais heureux, ils me disent, on sait une chose, c'est que tu es un véritable chrétien. Bien sûr qu'ils se moquaient de moi, mais je crois qu'un disciple, quand il s'est repenti, il a pris des décisions. Et si vous continuez à vivre dans le mensonge, eh bien c'est que vous ne vous êtes pas converti. Vous êtes peut-être devenu un petit peu plus sympa, vous êtes peut-être devenu un peu plus gentil, mais ce n'est pas ça que Dieu dit. Dieu dit, produisez du fruit digne de la repentance. Nous voulons voir la gloire de Dieu. Eh bien, commençons à porter du fruit. Ça commence le jour où on se repent. Ça commence comme ça. Un chrétien... Il commence sa vie chrétienne, non pas par le baptême, il commence sa vie chrétienne par la repentance. Ce n'est pas le baptême qui sauve, c'est la repentance qui sauve. Des fois on dit, oh le baptême, le diable il est contre le baptême, le diable il n'en a rien à faire du baptême. Par contre, la repentance, oui, ça ne gêne pas au diable que quelqu'un prenne le baptême. Si c'est pas repenti, il prend un bain, c'est tout. Mais lorsque quelqu'un passe par la repentance, il passe des ténèbres à la lumière. Et là, il devient... un instrument vraiment opposé à son royaume. Alors, Jésus a dit un jour, il a dit en parlant, on va le lire dans Matthieu chapitre 7, parce que c'est comment reconnaître un vrai chrétien? Ben, on vient de l'évoquer un petit peu, mais regardez, les fruits. Hier, il y a un pasteur qui est venu à la maison, hier soir, on a discuté avec un pasteur d'une situation vraiment délicate. Et ce verset m'est revenu à l'esprit parce que c'est un pasteur qui a fait une réunion et qui a fait des choses vraiment diaboliques. Diaboliques. Je vous assure, c'est grave. Et Matthieu 7, verset 15, regardez ce que Jésus dit. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ? Ou des figues sur des chardons, tout bon arbre porte de bons fruits. Mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ou un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Voilà à quoi on reconnaît un chrétien. Il faut que nous soyons honnêtes, parce qu'un arbre, il doit être continuellement traité. Il doit être continuellement taillé, il doit être continuellement arrosé. Un arbre, si vous ne l'utilisez pas, il peut porter des fruits une année, et 2 ou 3 ans après, il peut ne plus rien porter. Pourquoi ? Parce qu'on ne s'en occupe plus. Et la question, parce qu'on est sous le regard du Seigneur. Si on veut que ce moment nous rapproche de lui, il faut que vous vous posiez la question, tiens donc, mais je portais des fruits à 10 ans. J'avais une vie de prière. Tout à l'heure, on a parlé de ce psaume 32, où David s'est même piégé. L'homme avait le cœur de Dieu, un homme qui avait une communion avec Dieu que tout le monde ne pouvait qu'envier. Et pourtant, il dit, mais pendant des années, je me suis tu, pendant que je me suis tu, mon péché me consumait, je gémissais toute la journée. Et il compare les gens qui ne s'approchent pas de Dieu à des animaux, parce que le diable fera tout pour qu'on ne s'approche pas de Dieu. Je peux vous dire que pendant un moment, David n'a plus porté de fruits. Parce qu'il a accepté des choses dans sa vie qu'il n'aurait jamais dû accepter. Lui, l'homme de Dieu. Donc, on peut en déduire que nous aussi, on peut passer des périodes où on ne porte pas de fruits. Parce qu'on a besoin d'être émondé, on a besoin d'être traité. Est-ce que l'hiver, il faut traiter les arbres ? Oui. Vous savez que mon père aime les arbres. Et justement, une année, il me dit, mais je ne comprends pas. Quand on passe dans les vergers, il y a des fruits tous les ans. Vous savez, dans les vergers, je ne comprends pas. Et nous, les particuliers, on a des fruits tous les 2 ans. Vous avez remarqué sûrement ça. Mais il dit, comment ça se fait ? Je ne comprends pas. Il me dit, on va aller dans un verger, on va les demander. Et il a été dans un verger, je me rappelle. Il a dit, mais comment ça se fait ? Tous les ans, vous avez des pommes. Tous les ans, vous avez des poires. Tous les ans, vous avez des coings. Et nous, on a des fruits une année sur deux. Et je me rappelle, le monsieur a dit, mais c'est pas compliqué. En décembre et en janvier, il faut traiter les arbres. Et il faut mettre du sulfate d'ammoniac. En janvier et en février. Ça nourrit les racines et tous les ans, vous avez des fruits. Il y a des gens qui s'imaginent que les fruits, ça vient comme ça. Il faut le traiter tout le temps. Même l'hiver, il faut traiter les arbres. Nous aussi, on a des saisons. On ne porte pas toujours des fruits. Parce que le fruit, hop, il emporte en fonction des saisons. Il y a des saisons tropicales où il y a les fruits des arbres qui viennent 2-3 fois par an parce qu'il fait beau tout le temps. En France, les fruits, c'est tous les combien ? C'est tous les ans, à peu près, oui, tous les ans. Mais il faut traiter les arbres. Et s'il faut traiter les arbres, je pense que nous aussi, il faut qu'on fasse attention. D'ailleurs, regardez un peu plus loin. C'est où ça ? C'est dans l'évangile de Luc toujours. Je crois que c'est au chapitre 8, non ? Quand Dieu parle d'un arbre qui ne porte pas de fruits. Il est où ce texte ? Je ne sais pas si je l'ai marqué. C'est un texte ? Non, je ne l'ai pas marqué. Le Seigneur parle des arbres. Luc 13, verset 6. C'est une parabole qui parle justement de l'importance de porter du fruit. Parce que vous êtes peut-être chrétien depuis des années, mais vous devez être honnête. Et dire, mais peut-être que je ne porte plus de fruits. Peut-être que cette fidélité, parce que la fidélité, est-ce que c'est un fruit ? Oui. Est-ce que cette fidélité, je l'ai ? Cette patience, etc. Ce sont des fruits de l'esprit, la Bible dit. Si vous ne les avez pas, acceptez de vous remettre à genoux et de dire, Seigneur, émonde-moi et montre-moi ce qui ne va pas. Cette parabole, moi, elle m'a fait beaucoup réfléchir. Luc 13, verset 6. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit et il n'en trouva pas. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement. Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année, je creuserai tout autour et j'y mettrai du sulfate d'ammoniac, du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement ? Très sincèrement, si Dieu m'inspire, on est sous son regard, on est devant Dieu. Est-ce que vous accepteriez que le Seigneur vous dise aujourd'hui, tu es inutile. Est-ce que vous l'accepteriez ? Parce que c'est sévère ça. Moi j'aurais du mal que Dieu me dise, tu occupes la terre pour rien. Tu es inutile. Vous aimeriez quand vous passerez devant Dieu que Dieu vous dise, eh bien, tu sais, sur la terre, tu as été inutile. Vous aimeriez entendre ça? Non, personne n'aimerait entendre ça. Vous comprenez bien que même si c'est Dieu qui a créé les figuiers, même si Dieu s'intéresse à tous les arbres qu'il a créés, vous comprenez bien que dans la parole, il ne s'intéresse pas aux figuiers, il s'intéresse à nous. Et nous devrions pouvoir nous dire, mais est-ce que je porte toujours du fruit? Ça fait 3 ans que je ne porte plus du fruit. Je suis en danger. Car un chrétien, il n'est pas là pour dire l'église si, le pasteur lit ça, et les uns, les autres. Mais moi, que t'importent les autres? Toi, est-ce que tu portes du fruit? Est-ce que tu as réalisé que c'est ce que Dieu attend? Produisez du fruit digne de la repentance. La repentance, c'est pour les nouveaux qui découvrent l'évangile, qui réalisent qu'ils ne doivent pas être sympas, mais qu'ils doivent s'engager avec Dieu. Et la repentance, c'est également pour les chrétiens qui ont besoin tout à nouveau de revenir au Seigneur, parce que la repentance, ce n'est pas que pour les pécheurs. La repentance, c'est aussi pour les chrétiens qui doivent réapprendre à dire non, je ne porte pas de fruit. Parce que le problème, c'est d'être honnête. C'est d'être honnête, dit, mais, ou alors demander à quelqu'un. Est-ce que vous êtes capable de demander à quelqu'un qu'est-ce que tu penses, quelqu'un qui vous connaît, quelqu'un qui vous connaît bien et qui vous dira, mais non, tu ne portes plus de fruits, mais tu as vu comment t'es, dans quel état tu es devenu infidèle pour aller à un concert, alors là tu sauras te lever ou te faire remplacer, pour aller à une réunion de prière, tu n'es même pas capable, tu n'y penses même plus, voilà. Si vous ne portez pas de fruits, vous ne devez pas vous énerver, vous devez vous mettre à genoux chez vous et dire, Seigneur, on va régler cette affaire, il faut que je porte du fruit. C'est pas, je suis pas, parce qu'il y a des chrétiens, ils l'ont facile. Je peux vous dire que je suis bien placé pour savoir qu'il faudrait faire ceci. Moi, il y a des gens qui viennent 3-4 fois par an, tenez-vous bien, 3-4 fois par an, 10 fois par an, et des fois, ils m'attrapent sur le bord de la porte. Monsieur Gault, si vous voulez que l'Église marche, faudrait faire ceci, faudrait faire cela. Vous savez, nous, on sait comment ça marche. Je dis, mais c'est bien, merci pour vos conseils. Mais je crois qu'il y a des gens qui vivent dans l'illusion, vraiment. Je pense qu'un chrétien, il porte du fruit. Vous voulez porter du fruit? Est-ce que c'est important pour l'Église? Pour les autres? Parce que le fruit, comme je l'ai dit tout à l'heure, un poirier, je pense ce poire parce que j'en ai mangé 2 ce matin, 2 délicieux d'ailleurs, mais c'était pour moi, ces poires. C'est pas pour le poirier. Et imaginez-vous que demain, vous pouvez rafraîchir quelqu'un au travers d'une parole, au travers de votre témoignage. Est-ce que ça vous intéresse de rafraîchir quelqu'un? Est-ce que vous croyez que les gens dans le monde dans lequel nous vivons ont besoin de rafraîchissement, ont besoin de fruits? Mais voilà, vous ne pouvez pas les... Je le répète, vous ne vous énervez pas à essayer de les convertir. Mais soyez un bon témoin. Un arbre qui porte du fruit, un arbre qui est chargé de fruits. Vous en avez déjà vu des arbres chargés de fruits? Moi, j'ai travaillé dans ce pommier-là, dans ce verger où on avait été voir là, pour le sulfate. Et j'avais passé un mois à attacher les branches des pommiers tellement ils étaient chargés de fruits. Toutes les branches cassées parce qu'il y avait tellement de fruits. C'est beau à voir, on était toutes les branches. Et un arbre qui porte du fruit, il n'a pas besoin de dire « Regardez-moi, regardez-moi mes fruits. » Je peux vous dire qu'on les voit. C'est vrai ou c'est pas vrai? On les voit, les fruits. Mes frères et sœurs, quand on porte du fruit, il n'y a pas besoin de jouer la comédie. Parce que vous pouvez prendre ce que vous voulez, vous pouvez prendre quelqu'un avec un parapluie, attacher des grappes de raisin, ça ne viendra pas tout, ça ne viendra pas de lui. Quelqu'un qui porte du fruit, ça se voit. Si on ne porte pas du fruit, ça se voit aussi. Et il ne faut pas jouer la comédie. Il faut dire au Seigneur, aide-moi. La Bible nous demande de porter comme fruit la sainteté. Je suis souillé, ma vie est souillée. Parce que si vous mettez du Javel, si vous mettez du sulfate d'ammoniaque, et derrière, si vous mettez du Roundup, ça ne va pas aller. Un jour, je me rappelle, et mon voisin, il m'appelle. Vous savez, quand j'étais pasteur à Grouillé, on avait acheté une petite maison à Grouillé. Et j'ai mis des arbres fruitiers, bien sûr. Et un jour, le voisin, il m'appelle, il me dit, Monsieur Gou, vos arbres! Il avait voulu me les traiter. Il avait mis du Roundup dans la sulfate. Il me dit, j'ai cramé tous vos arbres. Ils sont tous brûlés. Alors, j'y étais. J'ai dit, Monsieur Guéraud, vous vous rendez compte? Eh bien, si vous n'aviez rien fait, il n'y aurait rien eu. Bon, c'est revenu, après on les a taillés. Voilà, hein. Mais je veux dire, tous étaient brûlés. Et mes frères et sœurs, il y a des choses de l'extérieur. C'est comme le Roundup sur les arbres. Ça nous empêche de porter du fruit. Vous ne vous en rendez pas compte? Parce qu'il ne s'en est pas rendu de suite compte. Il s'en est rendu compte le lendemain. Et je crois qu'on devrait avoir un petit peu de jugeote quand même. Ce n'est pas interdit pour un chrétien de demander du bon sens. David l'a fait, accorde-moi du bon sens. Mais si je ne porte pas de fruits, c'est vrai que j'ai peut-être besoin de quelqu'un qui va me dire, tu sais, moi combien de fois mes enfants ils me l'ont dit, papa, il y a ce qui ne va pas. Et combien je suis reconnaissant à mes enfants et à ma femme de m'avoir dit la vérité. Mais quand même, on devrait, parce que ce n'est pas compliqué, de chanter « Seigneur, que par l'instant qui pense, serve à nous rapprocher de toi ». Il n'y a pas besoin d'une super révélation, il y a besoin d'un peu d'intelligence. Seigneur, le fruit, où il est? Où il est le fruit? On va terminer en lisant juste une définition du fruit de l'esprit. Dans Galates, il y en a d'autres, le temps passe, mais peut-être juste se poser la question. Galates 5, 22. Ces fruits-là, un fruit, quand il est sur là, ça vient tout seul. Il faut que la branche soit bien connectée aux racines. Voilà, parce qu'en fin de compte, c'est là, ça vient des racines. Et comme a dit Paul aux Romains, si les racines sont saintes, les branches le sont aussi. Galates 5, verset 22. Il y a les œuvres de la chair au verset 19. Les œuvres de la chair, ce qui se passe quand il n'y a plus de communion avec Dieu. On peut les lire aussi, tiens, par comparaison. Ce n'est pas glorieux, mais enfin, c'est peut-être pour quelqu'un, ça va être bien. Galates 5, verset 19. Les œuvres de la chair sont évidentes. Tout est évident, en plus. Ce sont la débauche. Un chrétien qui vit dans le concubinage, est-ce qu'il peut porter du fruit? Ben non, la débauche, c'est pas... L'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Verset 22. Mais le fruit de l'esprit, dont je rappelle, le fruit, c'est le résultat. C'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Amen. Vous êtes d'accord? Et je le répète, n'essayez pas par vous-même de porter du fruit. C'est ça qui fait que beaucoup de chrétiens se sont énervés, épuisés. Ils ont essayé par leur propre force d'être patients. Alors, ce n'était pas de la patience, c'était de la résignation. Je me tais, je préfère me taire. Parce que la Bible dit qu'il faut être patient, alors je dis rien. Ce n'est pas tout à fait ça la patience, ça c'est la résignation. Par mes forces, je me la boucle. Ce n'est pas ça qui est écrit. La patience, c'est un fruit. Et c'est là que nous nous rendons compte que nous essayons souvent par nos propres forces de porter du fruit. Ça ne sert à rien. Le fruit, il doit venir de la communion. Ne focalisez pas sur le fruit, focalisons sur la communion. Et je veux cette communion. Je veux être greffé dans le cep. Je veux mourir à toutes ces choses mondaines qui me détachent, c'est-à-dire qui me dégreffent, qui m'éloignent de Dieu. Et je veux réapprendre à porter du fruit. Si ça doit être comme un pécheur, si je dois recommencer par la repentance, eh bien on va recommencer par la repentance, on va recommencer par le début. Mais quelle bénédiction! Quelle bénédiction de recommencer! Vous envisageriez cela comme un échec, de tout recommencer à zéro? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut se lever et dire « Ah oui, mais pour moi, Monsieur Gauss, il faut tout recommencer à zéro après 10 ans de vie chrétienne, pour moi c'est un échec ». Eh bien pour moi c'est pas un échec, c'est une bénédiction que d'avoir le courage de dire « Eh bien je me repens et je remets tout à zéro et on recommence à tailler, à greffer ». Vous avez vu le gars dans la parabole, mais tata, ne le coupe pas, ne le coupe pas. On voit la patience de Dieu qui va encore nous aider à remettre cette sulfate d'ammoniac pour que les racines puissent de nouveau être nourries convenablement. Alors mes frères et sœurs, ce que Dieu attend, c'est que l'on soit des disciples. Un disciple, c'est quelqu'un qui porte du fruit. Si vous ne portez pas de fruit, eh bien demandez-lui pardon, on ne va pas le faire là. Mais est-ce qu'on peut le faire à la maison? Est-ce qu'on peut prendre sa Bible ce soir et dire « Seigneur, tu vois, je ne porte pas de fruit ». Oui, ça fait comme la parabole, ça fait 3 ans. Peut-être que c'est plus grave, peut-être que ça fait 10 ans. Mais vous croyez que si on a besoin d'une prédication pour que Dieu nous parle, est-ce que vous pensez aussi que le Saint-Esprit, dans votre chambre, alors que vous allez chercher son cœur, est-ce que vous pensez qu'il peut poursuivre le travail qui a été fait à l'église? Bien sûr, si dans 10 minutes, vous êtes là en train d'écouter Radio Nostalgie et en train de... Vous savez, moi je pense que quand on veut être chrétien, il faut quand même qu'on soit sérieux. Il dit, Seigneur, ça, tu as commencé une œuvre dans mon cœur, je veux que tu la poursuives. Je veux que tu la poursuives. Et croyez-moi, Dieu voit. Vous savez, je pense souvent à ce verset ces jours-ci, parce qu'il me vient à l'esprit, quand il est dit dans l'Ancien Testament, c'est sûr, il est dit que les regards de Dieu parcourent la terre pour soutenir le cœur de ceux qui sont tout entiers à lui. Il n'est pas beau ce verset ? Les regards de l'Éternel parcourent la terre pour soutenir le cœur de ceux qui sont tout entiers à lui. Quand vous êtes tout entier à Dieu, il vous soutient. Alors on va fermer les yeux, on va lui demander de nous faire grâce. Vous êtes d'accord, mes frères et sœurs ? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'honnête au milieu de nous ? Répondez au Seigneur, moi je ne veux pas lever la main. Mais s'il y a quelqu'un de vrai ce soir ? Quelqu'un qui dit, mais moi c'est pareil, j'ai porté du fruit il y a 10 ans, j'avais la joie, je servais le Seigneur, j'étais impliqué dans telle activité, et j'étais heureux, j'étais heureuse. Et aujourd'hui je suis triste, je pense qu'à regarder la télé, je pense qu'aux choses de la terre, je languis le prochain concert, ou de regarder The Voice. Moi je pense qu'il y a une autre voix à entendre, vraiment une autre voix, une plus belle voix encore, que celle que le monde pourrait nous offrir. Si vous entendez sa voix, si vous cherchez la joie dans les choses du monde, c'est parce que ne soyez pas offusqués. Mais si vous cherchez la joie dans les choses du monde, c'est parce qu'il y a longtemps que Dieu ne vous a pas donné la sienne. Parce que j'aimerais savoir qu'est-ce que c'est qui pourrait remplacer cette joie parfaite que Dieu donne. J'aimerais savoir. Notre Père, tu nous as laissé ta parole. Tu sais combien notre plus grande joie, c'est que nous nous trouvions un jour devant toi, avec la grâce d'avoir porté beaucoup de fruits, comme tu le dis. De porter encore du fruit. Nous ne voulons pas en porter une année et être des beaux arbres une année seulement. Nous voudrions à chaque année produire du fruit, Seigneur, pour rafraîchir tous ceux qui sont mal, tous ceux qui souffrent, tous ceux qui ont soif. Seigneur, tu sais combien nous sommes heureux lorsque nous avons soif et que nous mangeons un fruit. Seigneur, donne-nous qu'il en soit ainsi pour les âmes affamées au niveau spirituel. Tu savais qui viendrait ce soir. Seigneur, tu sais qui a besoin d'un traitement radical, sévère, comme ce figuier qui avait besoin d'un traitement sévère pour tout à nouveau reporter du fruit. Tu vois celui ou celle qui, parmi nous, a besoin de se séparer des choses de la terre, se séparer de la souillure de la terre, pour tout à nouveau être greffé et laisser cette vie, ta vie, l'envahir, pour que nous soyons tous heureux de voir dans cette église beaucoup de fruits, glorifier ton nom. Merci Seigneur Jésus. Amen.